9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La corrida n'a pas été abolie jeudi par l'Assemblée nationale comme le voulait Émeric Caron. Les députés restent très divisés sur le sujet. La bataille va donc continuer. Mon premier invité est très engagé sur le sujet lui aussi. C'est l'architecte Rudy Ricciotti. La corrida pour lui c'est sacré. Il va nous expliquer pourquoi. Et puis on va parler de football avec Vincent Duluc. Il publie un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Il est actuellement au Qatar. Il va nous dire s'il est toujours aussi amoureux. Et l'on terminera l'émission avec une gémologue, Anne de Jouvenal-Tuny. Elle sort un livre passionnant sur les pierres précieuses et la fascination qu'exerce sur nous ces diamants, ces émeraudes venus des entrailles de la Terre qui ont des millions d'années.
Europe 1.
Le député LFI Émeric Caron a donc retiré sa proposition de loi visant à abolir la corrida. Des centaines d'amendements rendaient impossible un vote dans les délais impartis. Mais il a promis de revenir bientôt avec une nouvelle proposition de loi, transpartisane cette fois. Rudy Ricciotti, bonjour.
Oui, bonjour Taddeï.
Grand prix national d'architecture, vous êtes connu pour vos bâtiments, pour vos livres et pour votre amour de la corrida. 80% des Français seraient d'accord, selon les sondages, pour interdire la corrida. C'est une tradition, tel est l'argument répété par les élus des régions taurines. Mais comme dit Michel Onfray, ce n'est pas parce que c'est une tradition que c'est honorable. Qu'est-ce qui rend la corrida honorable à vos yeux ?
Bon, écoutez, d'abord que 80% supposés des Français, ou que Onfray, pour lequel pourtant j'ai beaucoup d'estime, soit anti-corrida, ça les regarde. Ça n'empêche pas qu'on doit pourtant interdire à 12 millions de Français de continuer cet accès à la corrida. Vous savez, il faut d'abord savoir que chez moi, ça relève de l'enfance. J'ai passé une enfance en Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, un territoire extrêmement pauvre, et c'était notre animation. J'avais 16 ans, j'allais au corrida en mobylette. Vous imaginez comment ça pouvait se passer. On rentrait tard le soir, je mettais une veste à mon père pour faire un feu chic. On se mettait en haut des gradins, dans les places populaires. On fumait des cigares, alors qu'on n'aimait pas fumer un cigare. Il y avait une mythologie. De la même manière que le regard qu'on porte sur les taureaux comme sur les toreros est un regard de fascination. Nous étions autant admiration de l'un ou l'autre. Et on pourrait dire que c'est presque une programmation neuroculturelle. Après, qu'une partie des Français, que les anti-taurins décident de nous interdire ce qui relève de notre mémoire culturelle, et moi je leur interdis. Je suis désolé, on n'a pas à être corrigé. C'est encore un affrontement, c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est encore un affrontement cognitif, culturel, de type Nord-Sud. Encore une fois, je veux dire, quand je vois les insultes, vous savez, j'ai fait un interview dans Marianne, j'ai reçu un flot d'insultes et de menaces de mort, et je ne suis pas le seul. Mais ils sont complètement démentiels. Moi, j'en suis arrivé à penser que ce projet de loi que Caron a engagé et qui fédère tous les animalistes anti-taurins est un boulevard pour lâcher une haine racialiste à l'égard des Suds, à l'égard des régionaux, à l'égard des Méditerranéens. On n'est pas obligé de subir. Voilà, on n'est pas obligé de subir. C'est presque une nouvelle. C'est la gauche qui fait créer une nouvelle extrême droite ultra-radicale, haineuse à l'égard des Méditerranéens. Vous savez, c'est un boulevard. C'est d'un seul coup un boulevard pour lâcher un point de vue raciste, du point de vue culturel sur l'ensemble des Suds.
Mais Rudy Ricciotti, vous savez bien pourquoi la plupart des Français, enfin je dis 80%, c'est ce que nous disent les sondages, que la plupart des Français seraient pour interdire la corrida. C'est parce qu'ils voient la corrida comme une séance de torture que l'on inflige à un animal. Or, la loi interdit de torturer les animaux. Donc ils se disent, pourquoi on continue les corridas ?
Bon, Taddeï, vous faites le malin une fois de plus. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre. Ça les regarde. Il faut quand même que vous sachiez, tiens, point de vue que personne connaît, l'université de biologie de Valencia, en Espagne, a démontré, après des études très très longues, sur la question génétique de l'élevage des taureaux bravo, c'est-à-dire des élevages de taureaux de combat, dont seulement 1% des élevages part aux arènes. Vous le savez, ça. Et que seulement 1% de ces taureaux part aux arènes, et le reste va à la chaîne alimentaire. Vous le savez aussi, quand même. Donc, ils ont mis en exergue, les chercheurs de l'Université de Valencia, que le fait de limiter la consanguinité dans les élevages de taureaux de combat était la meilleure garantie de viande sanitaire pour le futur, en matière bovine. Et que ce que vous mangez dans les bons restaurants à Paris ou ailleurs, au titre des côtes de bœuf, eh vous savez, là on est à 100% de consanguinité, on n'est pas du tout dans le même système. Il y a donc une écologie du biosystème dans les élevages de taureaux de combat, et je ne parle même pas des pâturages qui sont extrêmement protégés par ces élevages, qu'il faut entendre. Il ne faut pas être autiste à ce point-là.
Le taureau est piqué par la lance du picador, il reçoit ensuite plusieurs banderilles, tout cela est ritualisé, c'est pour que le taureau comprenne ce qui se passe et qu'il se batte. Il a vécu toute sa vie en liberté, il n'a jamais vu d'homme à pied, mais en même temps, cette souffrance émeut beaucoup de gens. La mort du taureau, par exemple, au lieu de finir à l'abattoir comme des millions de bovidés, il a le droit de combattre l'homme chargé de le tuer, c'est un honneur, mais ces 10 minutes qu'il passe dans l'arène sont une tragédie.
Mais vous êtes un poète, Tadéhi, vous êtes le plus grand défenseur de la corrida. Bravo,
non,
là, je suis surpris.
Non, mais j'étais
persuadé que vous étiez un animaliste, comment dire, gauchiste, extrême de gauche, anti-taurin et anti-méditerranéen. C'est une grande surprise. Je vais le dire à tous mes amis, éleveurs de taureaux.
Rudy Ricciotti, vous savez très bien que je ne donne jamais mon avis. Mais en revanche, là, ce que je vous dis, c'est ce que disaient Picasso, Cocteau, Hemingway, Orson Welles ou Ava Gardner, qui ont adoré la corrida toute leur vie.
Ben oui, c'est un moment où la mort est mise en scène. C'est une tragédie. C'est un moment d'émotion. J'ai vu, moi, les arènes avec Roger Thomas il y a quelques années à Nîmes. J'ai vu la moitié des arènes en larmes, quand même. Il se passe quelque chose. Il y a une messagerie peut-être mystique, peut-être ésotérique, peut-être christique. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler que la corrida et le christianisme entretiennent une relation assez complexe. Vous savez, c'est pas un territoire de révolutionnaires marxistes-léninistes, bien que la corrida ne soit ni de gauche ni de droite, elle est, point final.
Je me dis que le sang et la mort ont quasiment disparu de l'espace public. Et ce taureau de combat, j'ai l'impression que c'est le symbole d'une époque censée disparaître, hein, celle de la nature sauvage. Et le torero, en habit de lumière aussi, lui aussi, il incarne la nature sauvage.
Ah ben, faut voir le flot d'insultes homophobes que reçoivent les toreros dans la posture qui peut paraître féminine, avec des bas, avec des vêtements très près du corps, qui sont d'ailleurs souvent des gens très très beaux, les maestros très très beaux, très très félins, très féminins. Et le combat du maestro avec le taureau est quelque chose qui rituellement pourrait renvoyer à une idée peut-être un peu érotique. Du surréel, mais là je dis peut-être quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais là est aussi une autre réalité. Mais j'insiste sur le fait que, vous savez, dans les arènes, à ce moment-là, les gens sont tous... Le public est chrétien dans les arènes. Et autre chose aussi, c'est que le public est patriote. Vous savez qu'on chante à la Marseillaise dans les arènes ? Souvent on chante à la Marseillaise. Vous vous rendez compte, cet hymne à la République, à la solidarité républicaine, juste pour rappeler que nous aussi, le public des corridas, nous sommes de bons Français.
Mais alors, puisque vous parlez de République, c'est le quotidien Libération qui le raconte. Il y a plusieurs communes taurines qui ont déjà cessé d'organiser des corridas au cours des dernières années. Fréjus, Moguio, Vergès, Palavas, Rodilan, Carcassonne. Et ça n'a pas ou peu soulevé de contestation. Au fond, la corrida, à défaut d'être interdite, ne risque-t-elle pas de disparaître progressivement et dans l'indifférence à coup de décrets municipaux ?
C'est probable. Effectivement, ça relève de décisions démocratiques qui sont celles des maires et des conseils municipaux. S'ils décident d'interdire la corrida, ben écoutez, c'est qu'ils ont le droit de le faire par le fait qu'ils ont été élus démocratiquement. Voilà, après, il ne faut pas se plaindre, donc il ne fallait pas voter pour eux non plus. Mais vous savez, regardez, dans le Gard, il y a une partie des élus du Rassemblement National qui sont contre la corrida. Alors que c'est un des départements les plus taurins de France. On n'y comprend plus rien. Voilà.
Oui, les municipalités dont je parle, elles sont gouvernées par des maires de toutes les tendances, hein, toutes très différentes. Écoutez, il vous restera à aller en Espagne. En Espagne, on ne parle pas encore d'interdire la corrida, si ?
Bah, si, qu'est-ce qu'ils ont fait à Barcelone ?
Catalogne.
Oui, mais la Catalogne, ce sont des traîtres au monde méditerranéen. Non ? Ils sont plus alignés sur la Hollande, sur la cour de Hollande, sur les vertus du monde latin. Bon, que peut-on y faire ? C'est comme ça, c'est un destin. Oui, je pense que la corrida disparaîtra un jour, mais ce n'est pas la peine d'accélérer le mouvement. Voilà. Ce n'est pas la peine, parce que les conséquences autour de l'économie avec un grand E de la corrida sont aussi énormes. Hein. Ça ne va pas être si simple que ça. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de me faire corriger, parce qu'il y a des gens chez NUP qui nous détestent, nous, dans le Sud. Tiens, je suis en train d'arracher une branche à un arbre pendant que je vous parle. Ils nous détestent. C'est vrai que nous sommes une culture coupable, les Latins, les méridionaux. Ah ben, il faut s'habituer à vivre ensemble. Voilà.
Merci, en tout cas, Rudy Ricciotti. Et bon courage pour la suite, puisque je le disais, le combat n'est pas fini. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. On va parler de football, d'amour du football, avec Vincent Duluc.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et nous voilà avec Vincent Duluc, qui est journaliste à l'Équipe, spécialiste dans le football, écrivain. Il publie chez Plon un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, écrivez-vous, Vincent Duluc, c'est ce qu'il restera du football quand nous aurons oublié tout le reste. Une jolie déclaration. Je précise que vous êtes actuellement au Qatar, d'où le bruit que nous allons entendre. Hein, c'est le bruit de la clim. Alors, est-ce que c'est une Coupe du Monde à la hauteur de toutes celles que vous avez connues jusqu'à présent, depuis celle de 86 au Mexique? Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, avec sa climatisation, est digne de figurer dans votre dictionnaire?
Ah, c'est une Coupe du Monde différente. C'est une Coupe du Monde sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est une Coupe du Monde qui perturbe un peu nos repères, déjà dans l'espace, parce que c'est la première fois qu'on a l'impression que finalement, de suivre une Coupe du Monde à Disneyland, tout est dans un rayon de 20 km. On passe d'une attraction à l'autre. On a l'impression que c'est plutôt Disneyland en Floride, parce qu'effectivement la climatisation est partout, contrairement à ce qu'on nous a dit, elle est également dans les stades. Et le sport moderne pour les suiveurs et pour les spectateurs, c'est de surtout pas oublier la petite laine pour les soirées, parce que on est complètement frigorifié. Donc c'est vraiment une Coupe du Monde très différente. Et pour être un peu plus sérieux, même si le sujet de la climatisation de la Coupe du Monde est un sujet très sérieux, mais c'est aussi une Coupe du Monde d'une atmosphère différente, parce que c'est la Coupe du Monde des pays arabes. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Il y a une ferveur autour de toutes les équipes arabes dans cette Coupe du Monde qui nous change effectivement de la polarisation de l'histoire de la Coupe du Monde sur les nations sud-américaines et européennes. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui transforme un petit peu l'atmosphère.
Vous étiez assez circonspect au moment d'écrire votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde en parlant du Qatar qui était encore à venir. Vous disiez que de rassembler des supporters de 32 pays, de les regrouper pendant un mois sur un territoire grand comme la Gironde, pour l'essentiel un désert, en leur interdisant de boire de l'alcool et d'avoir des relations sexuelles hors du mariage, ça ne vous semblait pas une très bonne idée ? Verdict final ?
Je pense toujours que ce n'est pas une bonne idée, parce que c'est une décision qui a été prise pour des mauvaises raisons, évidemment. Le Qatar a voulu l'organiser dans le cadre de son soft power à coup de milliards, et pour le coup, l'organisation de la Coupe du Monde lui aura coûté sans doute au-delà de 200 milliards d'euros. Et on lui a donné aussi grâce à ce pouvoir financier, mais effectivement, ça ne correspond pas à sa culture profonde. D'ailleurs, les Qataris eux-mêmes ne sont pas passionnés par la Coupe du Monde ni par leur équipe nationale. Au match d'ouverture, ils sont partis à peu près à la moitié du match. Ça ne les intéressait pas. Le stade était un peu loin et ils voulaient rentrer chez eux. Donc voilà, et donc, il faut compter un peu sur soi-même, sur les supporters pour rendre cette Coupe du Monde joyeuse. Alors, il se trouve quand même que beaucoup de supporters ne sont pas là. On voit très bien que notamment les supporters qui suivent en général les équipes européennes ne sont pas venus. Il y en a à peu près 5 à 6 fois moins. Mais en revanche, ils peuvent être partout, ce qui fait que tous les stades sont quand même remplis et que les flux sont rendus possibles. Ce qui est vrai, c'est que la bonne surprise, c'est que c'est très bien organisé, et que les flux de supporters sont vraiment bien organisés. Ils ont fait en sorte que les routes ne soient plus occupées. Ils ont dit aux gens qui travaillaient, c'est-à-dire plutôt les non-qatariens, de rester chez eux et d'être en télétravail. Ils ont fermé les écoles pendant un mois pour éviter que les parents mènent les enfants à l'école le matin ou les ramènent le soir et que ça occupe les routes. Donc globalement, ils sont quand même à la hauteur de la responsabilité qu'ils avaient sur ce plan-là.
La France est tenante du titre, hein, elle est championne du monde, mais elle est aussi le pays qui a fourni le plus grand nombre de joueurs de Coupe du Monde au XXIe siècle. C'est vous qui me l'avez appris dans votre dictionnaire. Vous avez fait les calculs pour la Coupe du Monde de 2018. 52 joueurs étaient nés et avaient été formés en France. 9 avaient joué pour la Tunisie, 8 pour le Maroc, 8 pour le Sénégal, 3 pour le Portugal, 1 pour l'Argentine. Les autres, évidemment, jouaient pour la France. Nous sommes vraiment devenus une grande nation de football.
Ah, nous sommes devenus surtout une nation métissée avec des origines diverses. Et le football fait la différence entre la nationalité véritable et la nationalité sportive. C'est-à-dire que tous ces joueurs qui représentent des pays étrangers ont en général, évidemment, le passeport français, puisqu'ils sont nés en France. Donc, ça simplement, ils font un choix à un moment donné d'une nationalité sportive, parfois après avoir porté eux-mêmes le maillot de l'équipe de France, soit en sélection de jeunes, soit même dans la grande équipe de France, puisque tant qu'on ne joue pas des matchs de compétition pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde, on a le droit de changer de nationalité sportive. Donc voilà, je pense que ça reflète surtout le métissage de la société française, mais aussi sa capacité à former des jeunes joueurs via les centres de formation, sachant qu'évidemment, qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des joueurs de très haut niveau, ils viennent des grands bassins de population. Et là, en équipe de France, on n'est pas à la moitié, mais on n'est pas loin de la moitié de joueurs qui sont originaires de la région parisienne. Et c'est le cas aussi de la plupart de ces joueurs nés en France qui représentent une sélection étrangère à la Coupe du Monde.
On fait une pause, Vincent Duluc. On se retrouve tout de suite après. On continue de parler de la Coupe du Monde et de votre amour de la Coupe du Monde.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Vincent Duluc, il est journaliste à l'Équipe. Il publie un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde et il est dans la salle de presse. Il y a donc un bruit de climatisation, une climatisation très forte au Qatar. Vous dites dans votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, Vincent Duluc, pendant longtemps, les Français ont inventé les grandes compétitions de football pour que les autres les gagnent. La Coupe du Monde, c'est nous qui l'avons inventée, les Coupes d'Europe aussi?
Alors les Coupes d'Europe de foot, absolument. C'est le quotidien L'Équipe qui a eu l'idée des Coupes d'Europe et qui les a fondées, qui a provoqué la première réunion à Paris avec les clubs européens, qui a rédigé le premier règlement. Donc c'est vraiment la Coupe d'Europe de foot, c'est L'Équipe qui l'a inventée. Les dirigeants français, évidemment, on le sait, ont inventé les Jeux Olympiques modernes à travers le baron de Coubertin. Et pour la Coupe du Monde 1930, il y a eu deux actions de dirigeants français qui ont été très marquantes, celle de Jules Rimet, qui était à l'époque le président de la FIFA, du football mondial, et celle de Henri Delaunay, qui était son Richelieu ou son Mazarin, et qui faisait tout le boulot, et qui a eu moins de lauriers que Jules Rimet, mais sans doute un peu plus d'importance. Et ce sont ces deux hommes-là, avec l'appui de deux ou trois autres Européens, qui ont lancé la première Coupe du Monde en 1930. Donc effectivement, pendant très longtemps, nous avons créé des compétitions pour que les autres la gagnent. Alors en Coupe du Monde, on s'est rattrapé, on en a quand même gagné deux depuis. Et on va dire qu'en Coupe d'Europe, en 67 ans de Coupe d'Europe, on n'en a gagné qu'une. Donc là, c'était vraiment pour les autres, c'était vraiment un geste généreux.
Longtemps, ce sont en effet nos défaites que l'on a fêtées. Les Français sont souvent grands dans la défaite. Hein. C'est dans le football comme dans le reste. En 1976, les Verts de Saint-Étienne ont descendu l'avenue des Champs-Élysées sous les acclamations alors qu'ils avaient perdu la veille en finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich.
Oui, absolument. Longtemps, il y a eu une romantisation de la défaite en France. Mais on va dire que ce n'était pas tant par amour de la défaite que parce qu'on n'avait pas le choix, puisqu'on ne gagnait jamais. Donc il fallait bien célébrer, nos sommets. Et il se trouve que nos sommets étaient nos défaites. Le Grand Reims, dans les années 50, avait perdu deux fois en finale de la Coupe d'Europe. Saint-Étienne, donc en 76, avait perdu. Et le lendemain, effectivement, avait descendu les Champs-Élysées. Mais évidemment, la défaite la plus célèbre de l'histoire du foot français, c'est évidemment la nuit de Séville en 1982. Quand l'équipe de France de Platini, après que Schumacher ait agressé Battiston, a perdu au tir au but en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et c'est vrai que sous le vernis un peu de l'injustice, de la cruauté, du mauvais sort, il y a, c'est vrai, une espèce d'esthétisation de la défaite qui est quand même assez française et qui explique finalement, la révolution qu'on a vécue en 1998, quand tout à coup on est devenu une nation qui pouvait gagner au foot. Et là, on en a tous été un peu perturbés.
Maintenant qu'on s'est habitué à gagner, on ne sait plus trop comment fêter ça. Vous racontez la descente des Champs-Élysées des Bleus en 2018. C'est une vraie bérésina. Hein. Et quand ils arrivent enfin à l'Élysée, il n'y a rien à manger. Et ils ont même fini par oublier leur Coupe du Monde dans le bureau d'Emmanuel Macron.
Oui, mais ça, c'est absolument incroyable. Ils descendent des Champs-Élysées en 12 minutes alors que... En 1998, ça leur avait pris plusieurs heures. Donc, ils frustrent à peu près les centaines de milliers de personnes qui étaient venues. Il se trouve en plus que le sieur Benalla est à l'avant du bus et qu'on a l'impression que tout vient de lui. Lui dira plus tard qu'il a voulu freiner le bus, qu'ils sont arrivés beaucoup, beaucoup trop tôt à l'Élysée. Le président n'était pas prêt. Il a fallu les faire attendre dans le bus. Et effectivement, après, il y a la réception. Ils montent dans le bureau du président. À un moment, le président leur dit « Écoutez, messieurs, bah, passer une bonne soirée sur l'air de « j'ai quand même autre chose à faire, j'ai un vrai métier ». Et là-dessus, les Bleus commencent à avoir faim, ils se rendent compte que rien n'est prévu. On leur dit « on peut vous faire des sandwichs, mais alors à ce moment-là, il faut aller dans l'annexe de l'autre côté de la rue ». Donc ils traversent la rue, ils sont champions du monde depuis la veille, ils vont manger 4 sandwichs, après ils se séparent un peu dans la nuit. Et le lendemain matin, le conseiller au sport de président Macron reçoit un coup de fil du président qui lui dit « écoutez, l'équipe de France n'aurait pas oublié quelque chose dans mon bureau hier soir ». Donc effectivement, c'était une soirée assez cocasse, oui.
On a quelquefois des petites coupures de réception, mais c'est normal, vous êtes loin, vous êtes au Qatar. On est en train de parler par l'intermédiaire d'Internet. Dernière question, Vincent Duluc, vous racontez aussi dans votre dictionnaire amoureux la place des femmes des joueurs de l'équipe de France en 58. Ce serait leur arrivée juste avant la demi-finale contre le Brésil qui aurait déstabilisé les tricolores. En 98, elles sont soudain devenues célèbres. En 2002, elles prenaient plus de place que leur mari. Et en 2010, on a dit que toutes était de leur faute.
Oui, absolument. Au départ, il y avait une espèce de... Pas d'exotisme, mais en 58, clairement, Europe 1 et l'équipe avaient affrété un avion pour les femmes de joueurs et c'était intégré à la narration de cette épopée un peu unique du sport français de l'après-guerre. Ensuite, effectivement, les footballeurs ont commencé à rejoindre les magazines à papier glacé, à changer un peu de... à ne plus être que dans la presse spécialisée et sportive. Et leurs compagnes, qui étaient parfois célèbres, les ont accompagnées, puisqu'à l'époque, Fabien Barthez était avec le mannequin Linda Evangelista, Vicente Lizarazu avec la chanteuse Elsa, donc, et Christian Carambeu avec Adriana. Donc effectivement, tout à coup, les femmes de footballeurs deviennent glamour. Mais en 2002, effectivement, ça devient un peu n'importe quoi parce qu'elles sont un peu trop centrales. Et je me souviens que, comme analyste de la défaite, Roger Lemaire, que j'avais rencontré plusieurs années après, m'avait dit « mon problème, c'est que j'avais perdu l'harmonie chez les femmes ». Comme quoi, effectivement, les raisons de la victoire ou de la défaite peuvent être étranges.
Dernière question, vous pensez que la France peut gagner cette Coupe du Monde au Qatar ?
Très franchement, si la poisse continue à leur tenir compagnie dans ces proportions, ça va être très difficile. Si l'équipe de France perd un joueur à chaque match et un joueur important, ça va devenir compliqué. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Ce qui compte, c'est toujours la même chose dans une Coupe du Monde. Il faut arriver à construire une force collective en très peu de temps. Et cette force collective, par définition, elle est supérieure à la somme des talents et elle est assez difficile C'est assez difficile d'imaginer ce qu'elle va être au fil des matchs. Donc je trouve que là, il se passe quelque chose dans le groupe, que malgré l'absence de Benzema, ou plutôt que l'absence de Benzema a permis de concentrer la lumière sur Kylian Mbappé, et comme il adore ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et que voilà, cette équipe, finalement, elle est assez complète. Alors elle est sans doute moins forte que le Brésil, même moins forte que l'Espagne, mais il reste, si tout va bien, encore 3 semaines de compétition et peut-être qu'il peut lui arriver quelque chose de très sympa. Oui.
Merci Vincent Duluc.
Un grand merci
Frédéric. Je renvoie à la lecture de votre livre « Dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde ». Ça vient de paraître chez Plon. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de l'amour, mais pas du football, des pierres précieuses.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Anne de Jouvenel-Tuny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gémologue, vous êtes une spécialiste des pierres précieuses, vous avez enseigné à l'Institut National de Gémologie, vous êtes conférencière au Muséum d'Histoire Naturelle. Aujourd'hui, vous sortez un livre passionnant, Homo Lapidibus, sur la fascination qu'exercent sur nous les pierres. Un livre sans illustration, une fascination que vous qualifiez par ailleurs d'irrationnel. Pourquoi irrationnel ? Quand on sait le prix d'un diamant, on se dit que ça n'a rien d'irrationnel.
Ce n'est pas moi qui ai choisi le terme irrationnel, c'est Charles-Henri Dubail, mon éditeur, à qui j'avais présenté un projet de livre très basique sur les 4 pierres précieuses, c'est-à-dire diamant, rubis, saphir, émeraude, et qui m'a dit « Non, non, cette formule-là ne m'intéresse pas, j'aimerais bien que vous me fassiez un texte sur l'irrationnel ». Alors d'abord, je me suis dit « C'est une façon impolie de me raccompagner à la grille du parc ». Et puis, ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, je vais lui faire son texte sur l'irrationnel.
Oui, c'est irrationnel en fait. Hein,
voilà, donc on va essayer de décrypter la chose.
La rareté est pour beaucoup dans la fascination.
La rareté, la durabilité, parce que les pierres, en principe, traversent les siècles
Les millions d'années.
Oui, des millions d'années. Qu'elles ont toujours été à la base des instruments utilisés par l'homme. Depuis le silex jusqu'aux diamants qui sont la pierre par excellence, qui est durable, puisqu'elle a une résistance qui fait qu'elle traverse les siècles différemment de nous. Voilà. Et puis aussi parce que c'est aussi des pierres qui marquent des personnages ou des anniversaires ou des... Oui, des anniversaires et qui traversent les générations.
Et puis, alors, beauté, vous dites qu'elle est innée, la beauté des pierres. Elle est innée, mais cachée. C'est la main de l'homme qui la met en valeur.
Voilà,
et, bah, ce sont leurs défauts qui font leur valeur. Hein, puisque, à la différence d'un diamant synthétique, voilà, qui est parfait, une pierre précieuse, elle n'est pas parfaite, justement.
Je suis ravie que vous attaquiez ce sujet de cette façon-là. Parce qu'effectivement, le premier diamant qui a été trouvé en Afrique, c'était des enfants qui jouaient avec une pierre... qui a paru un peu différente des autres à un homme qui voyageait là. Donc il s'est intéressé à cette pierre et voilà. Et après ça, il l'a fait analyser en se disant elle est différente des autres. Et puis il s'est aperçu que c'était un diamant. Donc ça a été le premier diamant trouvé en Afrique, parce que jusque-là, c'était des diamants qui provenaient d'Inde et qui étaient le résultat des voyages de Jean-Baptiste Tavernier, par exemple, pour Louis XIV. Qui a produit tous les diamants des collections de Louis XIV.
C'était les mines de Golconde à l'époque, hein, dont
Golconde.
On rêvait parce qu'il y avait,
voilà,
les plus beaux diamants du monde qui sortaient des mines de Golconde.
Voilà.
Mais restons un instant sur les pierres synthétiques. Vous dites qu'elles sont trop belles pour être vraies. Et en même temps, ces diamants qu'on arrive à produire aujourd'hui sont quand même extraordinaires.
C'est la reproduction exacte au point de vue minéralogique, composition chimique et structure. C'est la reproduction exacte des modèles naturels. Comme les autres pierres, du reste, les autres pierres précieuses qui sont imitées. C'est aucun appareil ne peut faire la différence. C'est la seule chose qui fait la différence, c'est l'œil et les marques de naissance. Les marques de naissance qu'elles gardent à l'intérieur de leur matière et qu'on peut décrypter soit à l'œil, ce qu'on appelle les crapauds autrefois, ce qui n'est pas une jolie formule, mais enfin, on disait un diamant, non, il a des crapauds, on n'en veut pas. Bon, voilà, c'est la seule chose qui peut faire la différence. Moi, ça me réjouit qu'enfin, les pierres anciennes qui ont des défauts puissent
en être fiers.
En être fiers, voilà.
Les pierres dont vous parlez, les vraies, oui, sont nées dans les entrailles de la terre. Hein. Les plus belles émeraudes du monde, par exemple, vous dites qu'elles viennent de Colombie.
Oui.
La première a été trouvée par un conquistador espagnol en 1545 dans la cordillère des Andes. Elle s'était coincée dans le sabot de son cheval.
Oui, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas été vérifiée. Hein. Mais c'est ce qu'on dit. C'est l'époque des conquistadors et que... Avant de massacrer tous ces malheureux Indiens, ils ont effectivement exploité les mines d'émeraude et les mines d'or.
En 1622, l'Atocha, un navire espagnol, disparaissait au large de la Floride avec un trésor légendaire. Et bien, trois siècles plus tard, en 1985, au bout de 16 ans d'efforts, il a été retrouvé par Mel Fisher, un chercheur de trésors. Il a remonté 40 tonnes d'or, d'argent et d'émeraude, dont l'émeraude Atocha, je dis Atocha, mais
oui, c'est ça, oui,
issu d'un cristal brut de plus de 25 carats. Hein.
Oui. Alors en plus, cette histoire de l'Atocha, c'est quand même extraordinaire parce que Mel Fisher avait fait tailler pour sa femme la plus belle émeraude. Et puis, bon, ils sont morts tous les deux. Voilà. Et tous leurs objets ont été vendus. Et ça a été acheté aussi par un Américain ou un Canadien, plus exactement, qui a voulu acheter l'Atocha et en faire l'objet principal d'un aigle en or de 50 kilos d'or, etc. Et qu'il, après ça, a voulu vendre pour la recherche sur le cancer ou quelque chose comme ça. Et il ne l'a pas vendu pendant cette exposition à Vancouver en allant rechercher son aigle dans un sac à dos avec un garde du corps. Ils se sont fait tous les deux tabasser et l'Atocha a disparu une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on n'a pas encore retrouvé sa trace.
De Juvenal Tuny, vous n'avez pas aimé l'expertise, vous le racontez dans le livre, vous avez trouvé ça ingrat et ennuyeux. Les belles pierres sont rares, dites-vous. Et puis on fait souvent de la peine aux gens qui se croient possesseurs de pierres précieuses, alors que ça n'est pas le cas. Vous racontez l'histoire de cette jeune femme dont les parents avaient fui le Cambodge en échangeant tout ce qu'ils possédaient contre trois grosses émeraudes.
Ouais.
Leur fille est venue vous voir avec sa mère et les émeraudes. Et alors ?
C'était du verre. Et là, j'étais toute jeune à cette époque-là. Et j'étais confondue. Je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas leur dire. Et devant ma confusion, la petite me dit, ma mère parle pas français. dites-moi ce que vous en pensez. Et je lui dis, malheureusement, les émeraudes sont fausses. C'est du verre. Et ça m'a coupé net l'envie d'être expert.
Mais c'est arrivé au plus grand. Hein. C'est arrivé à la fin du 19e siècle au Louvre, hein, qui avait acheté la fameuse tiare du roi Saïd Tafarnèse.
Ah oui, voilà.
C'était un faux.
Oui, c'était un faux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que l'orfèvre russe qui avait fait cette tiare sur la commande d'un de ses clients... Lui, il a été
encensé. Oui, on l'a carrément fait venir à Paris, on lui a donné une médaille tellement il avait fait du beau travail.
C'est ça. La terre de Saïd Tafarnèse, c'est une histoire extraordinaire, je trouve.
Vous racontez aussi que pendant longtemps, on a confondu la topaze avec le diamant et la spinelle avec le rubis.
Oui.
Et au fond, c'est seulement maintenant qu'on fait véritablement la différence entre toutes ces pierres.
Eh bien, c'est les progrès de la science. Le fait que depuis le XVIIIe siècle, on ait découvert la cristallisation. Le fait que toutes les pierres ne cristallisent pas de la même façon, la composition chimique, on s'est mis à tout analyser. C'est ce que je regrette un peu, parce que du coup, jusque-là, toutes les pierres rouges s'appelaient rubis, c'était simple, les pierres vertes des émeraudes, et puis c'était très simple. Mais là, ça tout devient très compliqué. Et là, on s'est mis à tout analyser, ce qui fait qu'on a fait descendre de leur piédestal des tas de pierres, comme le rubis d'Anne de Bretagne, oui, par exemple.
C'est pas ce qu'on croyait.
Voilà.
Ou à l'inverse, la déesse Ishtar que le Louvre détenait depuis 1866, on s'est aperçu tout à coup que ses yeux rouges, c'était des rubis.
Je vois que vous avez très bien lu.
On croyait que c'était du verre, non, c'était des rubis.
Oui, ben voilà, on s'est dit un jour, ça brille un peu plus, etc. Mais cette façon de tout analyser maintenant est un peu triste, parce qu'en fait, on n'aime plus les pierres pour leur physique.
Pour leur beauté.
Pour leur beauté. On aime les pierres parce qu'on a un certificat qui certifie qu'elles sont...
Mais en même temps, elles exercent sur l'être humain un pouvoir mystérieux, vous en parlez beaucoup, hein, on leur prête des vertus médicinales, des pouvoirs magiques. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement, ça?
Non, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de la méthode Quay là-dedans.
Ou de l'irrationnel dont on parlait.
De l'irrationnel, et puis qu'en fait, les gens cherchent quelque chose qui va... Je prends l'exemple, quand on va chez un médecin, que le médecin vous dit « vous allez très bien, vous n'avez besoin de rien », on n'est pas content. En fait, on veut ressortir avec une ordonnance. Et là, je pense que c'est le même principe. Voilà, les gens qui sont déprimés ou qui ont mal aux genoux ou je ne sais quoi. Alors, il y a n'importe quoi. Par exemple, même dans les mangas, mon petit-fils m'a donné un livre sur les mangas où il célèbre les pierres qui sont la shungite, là, qui protège de toutes les mauvaises ondes et tout. Enfin bon.
Ben oui, c'est les Japonais, hein. Ils sont comme nous, hein. Ils sont irrationnels
voilà.
aussi.
Voilà, mais disons que ça touche même la jeune classe.
On fait une pause, Anne de Jouvenel-Tuny. On se retrouve tout de suite après, on continue de parler de pierres précieuses.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Anne de Jouvenel-Tuny, qui est gémologue et qui publie Homo Lapidibus, un livre sur la fascination qu'exercent sur nous les pierres précieuses. J'avais envie de vous parler du fameux diamant bleu de la couronne de France.
C'est un sujet délicat,
voilà,
effectivement.
Voilà, il a été volé en 1792, on est en pleine révolution,
oui.
Hein, et on sait très bien où il est. Hein. Il a été retaillé, c'est devenu le diamant Hope, oui, qui est exposé au Smithsonian Institute de Washington. On n'est jamais parvenu à ce que les Américains nous le rendent.
Hein. Mais je crois qu'on ne l'a jamais réclamé.
Ah bon?
Il me semble qu'on ne l'a jamais réclamé parce qu'en fait, on a eu la preuve. On a établi la preuve. On n'a pas eu, on a établi la preuve à travers un plomb qui était le facsimilé du diamant de Louis XIV. Bon, il a été volé en 1792. 20 ans après,20 ans sont passés, tous les vols révolutionnaires étaient... Comment ça s'appelle ?
Prescrits,
c'est ça. Donc, est apparu à Londres un diamant bleu qui ressemblait beaucoup comme couleur à celui de Louis XIV, sauf qu'il n'avait pas le même poids. Bon, il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse que ça soit une retaille, mais il n'en a pas pu le prouver à l'époque. Et on a pu le prouver que 200 ans après, c'est-à-dire dans les années 2000, quand on a trouvé au muséum ce plomb avec l'étiquette Hope. C'est dit, là, on va faire quelque chose. Donc, avec les méthodes actuelles pour pouvoir superposer les images, on a superposé la photo du diamant Hope la faute, etc. Et on a pu établir la falsification. Quoi. Enfin,
quand on retaille un diamant, il y gagne ou il y perd? Parce que vous ne cessez de raconter dans votre livre à quel point des diamants célèbres ont été retaillés.
Mais
tout
oui,
le temps.
Parce qu'ils veulent toujours améliorer. Par exemple, il y a une chose, dans une taille diamant, il y a ce qu'on appelle la collette. La collette, c'est la plus petite facette qui est à la pointe du diamant. C'était fait autrefois pour éviter que le diamant ne se casse, que cette petite pointe se casse. Et donc, on faisait une toute petite facette. Et à partir du moment où on a fait des études pour améliorer la taille, pour la brillance, etc., on s'est aperçu que ça faisait un trou. Quand le diamant était sur le doigt, on voyait le doigt à travers par ce petite facette, la collette. Et donc, on a décidé de fermer la collette, c'est-à-dire de la repointer. Et on s'est aperçu que ça changeait la couleur. Les diamantaires se sont aperçus que cette collette, finalement, elle avait une action bénéfique. Bon, mais maintenant, avec Tolkovsky, qui a fait la taille moderne, à 56 ou 58 facettes, suivant qu'on compte la facette principale et la facette de la pointe, pour deux facettes. La taille Tolkovsky, c'est des angles particulièrement bien choisis pour que toute la lumière soit renvoyée. C'est-à-dire que tout ce qui rentre comme lumière par les facettes de la couronne ressort par la table. Et tout ce qui rentre par la table ressort par les facettes de la couronne. Il n'y a pas de lumière perdue. Bon, alors c'est la nouvelle mode. Maintenant, tous les diamants vont être taillés selon ces quatre critères. Qu'on appelle les 4 C, c'est-à-dire cut, la taille, la pureté, etc., clarity, cut, et puis, etc. Donc, actuellement, tous les diamants taille ancienne, qui sont quelquefois en forme de patate, je dirais, parce qu'on a utilisé un maximum de poids, eh bien, on les retaille, mais on perd beaucoup à la taille. Mais ils gagnent en brillance, en couleur. Enfin, il paraît-il qu'il gagne.
Mais de toute façon, les gros diamants qu'on a pu trouver, il a bien fallu les tailler pour en faire plusieurs.
Façon, hein. De toute façon, les gros diamants, le cullinan, par exemple, 3106 carats, qui a la taille d'une paume, qui remplit une paume de main d'homme, a été taillé en 9 pierres principales et 99 petites. Et ces 9 pierres principales, dont la plus grosse, 530 carats, est sur le sceptre de la reine d'Angleterre. Le deuxième est sur la couronne impériale et les autres sont autour, etc., en broche ou je ne sais quoi. Et donc tout ça, ça a été taillé parce qu'à l'époque on fractionnait les diamants parce que c'est très dur de tailler un diamant, ça ne peut se tailler que par soi-même. Donc on avait découvert qu'ils avaient des zones de fragilité qui correspondaient à leur structure interne et que si on tapait dans ces zones de fragilité, ils se séparaient. Donc ça s'appelle le clivage.
Et il faut savoir le faire. Vous racontez qu'il y a celui qui est chargé de le faire pour le plus gros diamant.
Oui.
Il tape une première fois, ça marche pas. Il s'évanouit tellement il a peur.
Il s'évanouit. Bah oui,
parce qu'il a peur de l'avoir abîmé.
Alors ce diamant, il avait une base plate qui prouvait qu'il était déjà un morceau d'autre chose, un morceau d'un plus gros diamant et qu'il avait été clivé naturellement. Donc il s'était servi de cette base plate pour établir les autres positions. Et en fait, il l'a étudié pendant 2 ans. Avant de donner le premier coup. Et effectivement, il s'est évanoui d'émotion.
En tout cas, si on s'intéresse aux pierres, si on aime les pierres, voilà un livre qui va rapidement devenir indispensable. Homo Lapidibus, la passion des pierres. C'est signé Anne de Jouvenel-Tuny et c'est paru chez Edicens. Merci d'être venu sur Europe 1.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminé. On se retrouve demain matin à 9h. On va passer une heure avec la chanteuse Barbara qui nous a quittés il y a 25 ans, pile. On sera avec Jean-François Kervéan, son meilleur biographe. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1 et vous la commencez fort bien avec Pierre de Villeneuve puisque dans un instant, ce sera les grandes voix. Quel est le programme, Pierre?
Alors, au programme, les Jeux du cirque dans l'arène de l'Assemblée nationale. Rien ne va plus entre la France et l'Allemagne. Elisabeth Borne essaye de sauver le couple franco-allemand. On parlera également de l'Ukraine et de ses plus de 12 millions de téléspectateurs. Le foot totalement fédérateur pour cette Coupe du Monde au Qatar.
Bonne émission.
Merci.